enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chouet.
Aujourd'hui, l'Équateur et la question de la succession du président coréen.
Voilà, avec notre invité Alexis Serra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, maître de conférence à Cergy Pontoise. Alors tout de suite, les résultats provisoires et donc incomplets. Alors l'ancien vice-président, M. Moreno, aurait recueilli 38,87% des voix et son rival conservateur est crédité de 28,50% des voix. Et il ne faut pas la majorité absolue au premier tour. On va pour l'emporter, on va en parler dans un instant. Le temps de rappeler quand même que c'est très intéressant, l'Équateur, à plus d'un titre, à commencer par le fait qu'après une élection 2006 et deux réélections, 2009-2013, le président Rafael Correa, économiste de formation, quitte le pouvoir dans un contexte économique inquiétant. Alors quelques repères, évidemment, on a le droit de ne pas les connaître. À peu près, j'arrondis tous les chiffres, 250 000 km², 16 millions d'habitants, 31% ayant moins de 15 ans, un indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, 2,6, des ressources pétrolières tout à fait significatives. C'est un membre de l'OPEP, il a du café et du cacao. C'est le premier exportateur mondial de bananes, une monnaie qui est le dollar depuis 2000. Et puis évidemment, deux paramètres clés sur le plan économique, la chute du cours du pétrole depuis 2014 et la hausse du dollar qui ont réduit, semble-t-il, le dynamisme du pays. Puis des scandales de corruption, bon, tout ça en vrac, mais ça donne une petite idée. Alors ces résultats, déjà, même s'ils sont provisoires, comment est-ce que vous les interprétez? Puis on va revenir au président Correa dans un instant.
Alors, je pense que pour l'instant, il faut avoir les résultats définitifs, mais visiblement, on s'avance vers un deuxième tour. Alors, vous le disiez, le système électoral, depuis la Constitution de 2008, fixe à 40% le seuil d'élection au premier tour, à condition qu'il y ait 10% d'écart avec le second. A priori, il y a les 10% d'écart, mais il n'y a pas les 40% pour Lénine Moreno, qui serait l'héritier de Correa. Donc il y aurait un deuxième tour, et comme souvent en Amérique latine, il y a du temps entre les deux tours.
Oui, c'est au mois d'avril, l'éventuel second tour. Alors, Correa, alors, c'est un personnage haut en couleur, c'est un personnage, comment dire, qui a un art oratoire très latino-américain, et qui d'ailleurs, j'ai vu, c'est pas très gentil pour la presse, traite de temps en temps les médias ou les journalistes ou des journalistes de malades mentaux. Évidemment, c'est peut-être excessif quand même. C'est quand même un pas, il est alors, certes truculent, mais comme on dirait aujourd'hui, clivant.
Tout à fait clivant. Et d'ailleurs, l'élection actuelle montre aussi, puisqu'il y a vraiment, en fait, il y a vraiment une élection pour ou contre Correa ou pour ou contre la continuité de sa politique. C'est quelqu'un qui a amené malgré tout la stabilité politique, puisque entre 96 et son arrivée au pouvoir, il y a eu en moyenne un président tous les deux ans. Et donc lui, il a amené une stabilité avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle politique. Il avait cherché à diversifier l'économie, à redistribuer aussi. Mais son grand défaut, c'est effectivement une forme d'autoritarisme qui s'exprime notamment contre les médias, parfois contre la justice, et qui a fait aussi qu'il a déçu dans son entourage.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a aussi profité, ça n'enlève rien à ses mérites, s'il en a dans la réduction des inégalités sociales, il a profité quand même du fait que c'est un état pétrolier, que le cours du baril était relativement élevé il y a des années,
oui.
Quelques années, jusqu'en 2014.
Oui, disons que cette manne pétrolière lui a permis de financer des programmes sociaux, puis aussi des investissements assez forts dans l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur aussi. Il a cherché à former des jeunes, notamment en les envoyant à l'étranger, à condition qu'ils reviennent dans le pays pour qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau. Mais c'est vrai que ce n'a été possible que par les prix élevés des matières premières, et tout particulièrement du pétrole, dont l'Équateur est dépendant.
Aujourd'hui, la situation économique se présente de quelle façon ?
C'est un pays qui reste vulnérable aux chocs extérieurs. La politique de Correa a aussi permis d'équiper le pays, notamment de réduire sa dépendance énergétique, puisqu'il a lancé des programmes de barrages hydroélectriques, équipements routiers, mais la diversification économique n'a pas eu lieu. Et ce qu'il annonce comme objectif, et ce que Lénine Moreno annonce comme objectif, c'est d'ouvrir des champs miniers, enfin de développer l'extraction minière, donc de rester finalement encore dépendant des matières premières. Il y a eu un développement du tourisme, hein, aussi des activités touristiques assez fort, de l'agriculture d'exportation, mais on en reste toujours à une économie dépendante et vulnérable donc aux évolutions des matières premières et du marché international. La réduction des inégalités, c'était son objectif, mais les inégalités restent extrêmement élevées dans le pays, malgré des progrès, notamment dans l'éducation et la santé.
Alors il y a la question aussi de la corruption, et de la corruption qui touche à la fois, j'ai vu, la fonction publique et également la classe politique. Et la justice américaine se plaint qu'un groupe de construction brésilien ait versé 33 millions de dollars à des fonctionnaires équatoriens entre 2007 et 2016. Est-ce que c'est vraiment une plaie, la corruption, touchant le fonctionnement de l'État finalement ?
C'est une plaie dans toute l'Amérique latine, et de ce point de vue, l'Équateur...
Oui, alors, on n'avait pas envie d'entendre cette question. Cette réponse, ce n'est pas de jeu, là. Vous aggravez leur cas.
Ce n'est pas... c'est lié notamment aux entreprises brésiliennes. Enfin, on retrouve le même problème avec Odebrecht, au Pérou, enfin, dans d'autres pays, y compris au Brésil. Mais c'est un problème, et si Correa lui-même n'est pas accusé, ou si Lénine Moreno, son successeur, ne sont pas directement accusés, en revanche, il y a une partie de l'entourage qui est accusée, et notamment à l'occasion de la construction de ces grands travaux routiers, par exemple, où des commissions auraient été versées. Donc ça a effectivement été un élément central de la campagne, avec les problèmes économiques.
Alors admettons, hypothèse d'école évidemment, à cette heure, que l'ancien vice-président soit gagnant, ou aujourd'hui, ou lors du second tour en 2 avril, ça change et quoi ? Quelle perspective ?
Alors si c'est Lénine Moreno, qui a une personnalité tout à fait différente que Correa, c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs, parce qu'il est populaire, c'est la continuité, c'est le vote pour la continuité. Si c'est Lasso, qui est le représentant d'une part de Guayaquil, il y a une question régionale très forte qu'on n'a pas évoquée, mais qui est assez importante, et qui est représentant d'une forme d'oligarchie, il est président d'une des principales banques du pays. Il est clair qu'il y aura une orientation beaucoup plus néolibérale, en tout cas moins interventionniste de la part de l'État.
Est-ce que, alors si c'est le vice-président, l'ancien vice-président qui l'emporte, est-ce qu'il sera dans on pense ou non qu'il sera dans la continuité du président Correa qui quitte la scène ?
On pense qu'il sera dans la
continuité. D'un point de vue politique, oui.
En termes de politique économique, oui. Son programme est dans la continuité de ce que Correa a mis en place et même annonce comme choix économique. En revanche, en termes de personnalité, peut-être il y aura des différences.
C'est-à-dire qu'il sera plus reposant ?
Il sera sans doute plus reposant, oui. C'est quelqu'un qui est assez populaire, qui a beaucoup d'humour, qui s'est fait connaître parce qu'il est handicapé et qu'il a beaucoup travaillé, y compris à l'échelle latino-américaine, sur la question de l'handicap.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Juste une chose, Alexis Sierra, et je rappelle que vous êtes maître de conférence à Cergy Pontoise. On parle, c'est ce genre de pays dont on ne parle presque pas. On parle du Pérou, de l'Argentine, du Brésil, évidemment du Venezuela, de la Colombie, enfin d'Amérique du Sud, mais pour ainsi dire pas de l'Équateur.
À l'échelle latino-américaine, c'est un petit pays. Vous rappeliez que c'était la moitié de la superficie de la France, 16 millions d'habitants. Et en même temps, c'est un pays qui a un laboratoire politique extrêmement intéressant, notamment avec les évolutions qu'il y a eu les dernières années, le rapport avec les communautés indigènes. Un petit pays extrêmement divers, avec la côte, les Andes, la zone amazonienne, d'où est issu Lénine Moreno d'ailleurs, puisqu'il est né dans un petit village au fond de l'Amazonie. Et donc qui est extrêmement intéressant, mais effectivement, hélas, à mon grand regret, pas très connu.
Alexis Sierra, bon. Alors merci beaucoup, et donc franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger.
Merci à vous Thierry Garcin et à Alexis Sierra qui était avec nous en plateau. Et demain Thierry, il sera question des États-Unis.
Alors
un mois après la prise de fonction de Donald Trump.
Fait le compte,
un mois et un jour.
Et un mois et un jour, ben vous êtes bien en tête. Bravo. Un mois et un jour, donc président Trump, un mois après son investiture, et notre invité sera Daniel Collard, qui est professeur de droit international, Université de Franche-Comté.